Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre dernière vadrouille de l'année. Ça sera l'occasion pour nous de revisiter 2019 à travers quelques-uns des très nombreux grands reportages qui ont rythmé les carnets depuis janvier. C'était dur de choisir. Deux d'entre eux nous parlent de nos modes de vie et de la manière dont nous allons devoir forcément nous adapter si l'on veut éviter que la planète surchauffe et devienne invivable. La place de la voiture d'abord, qui pollue l'air que l'on respire. Alors on va retourner à Pontevedra en Espagne. Depuis 20 ans, progressivement, les voitures sont sorties de la ville, au point que pour les enfants, quand la sonnerie de l'école retentit, la récré, c'est dans la rue.
Là, on est sur une place en plein centre de Pontevedra. 400 enfants de maternelle et de primaire sont en train de sortir. C'est le moment de la récréation. Et ici, c'est leur cours.
Comment la décision d'un maire a changé la vie des habitants et fait l'unanimité? Rendez-vous à Pontevedra. Puis je vous emmènerai à Phoenix, aux États-Unis. Une ville d'Arizona qui suffoque. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une idée, c'est très concret là-bas. Au point que les habitants se mettent à vivre de plus en plus la nuit, y compris sur les chantiers.
Là, j'ai un employé qui commence à travailler ce soir. Il est 10h du soir. Il fait 31 degrés. Et aussi, j'en ai d'autres qui commencent à 3h du matin.
Il fait bon à 3h du matin?
Ah oui, peut-être en dessous des 30.
Autre moment marquant de 2019, la Coupe du Monde organisée en France et qui a braqué les projecteurs sur le foot féminin. On verra comment les joueuses allemandes ont fait parler d'elles avec beaucoup d'humour. Et on ira au Kenya, dans le plus grand bidonville du pays, où le football permet aussi aux filles d'étudier et donc de changer de vie. On reparlera du Brexit, tant de fois annoncé depuis 3 ans et demi, avec les témoignages très touchants de deux Britanniques installés en France depuis 20 ans. On entendra aussi Joseph Chovanec faisant l'éloge du vélo vu d'Autistan. Et puis on va démarrer avec un reportage tout frais, frais comme une carpe. C'est presque une chronique gastronomique, quoique vous allez découvrir le mets de Noël en Pologne, incontournable. Elle était au menu du réveillon cette semaine, c'est la carpe de Noël. À table, les carnets du monde sont ouverts.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Halte au foie gras, au saumon ou aux huîtres, point non plus de dinde au marron. Les carnets se font fort de vous faire découvrir les traditions d'ailleurs. Et aujourd'hui donc, c'est la carpe de Noël, un poisson d'eau douce qui est le repas de réveillon favori des Polonais. Il s'en est vendu plus de 21 000 tonnes l'année dernière, dont 80% en décembre. Même si le poisson est proposé à la découpe dans beaucoup de grandes surfaces, un quart des Polonais l'ont encore acheté vivant dans les magasins, c'est la tradition. Fanny Boucaud, notre correspondante en Pologne, est allée voir juste avant Noël la relation que les Polonais entretenaient avec leur carpe. Reportage.
À la caisse d'une grande surface, Anya, le caddie bondé pour le repas de Noël, a acheté sa carpe vivante. Elle est posée à côté d'un gros bouquet de fleurs à l'avant. Elle bouge encore dans un sac plastique sans eau.
Je la tue de suite en arrivant chez moi et je la mets au congélateur. Oui, c'est moi qui la tue toute seule. Avec une petite hache, une feuille de boucher, je lui coupe la tête et voilà. C'est ma mère qui m'a appris à faire comme ça. C'est la tradition familiale.
Au rayon poissonnerie, à côté des étals, un bassin rempli d'énormes carpes, si nombreuses qu'elles ne peuvent presque pas bouger. Certaines sautent et éclaboussent les clients, ce qui fait rire la petite fille de Magda.
Moi, je trouve que cette tradition n'est pas bien, mais j'aime ce poisson. Je viens de demander à mon mari si on pouvait en acheter une vivante pour cette année, mais il m'a dit non.
La tradition veut donc que les Polonais l'achètent vivante et la tuent à la maison. Mais certains ne savent pas très bien s'y prendre. Comme Edita, pour faire plaisir à sa mère, qui adore la carpe, elle en a acheté une l'année dernière.
J'ai acheté une carpe vivante au supermarché. Le poissonnier l'a assommée et me l'a vendue dans un sac avec de l'eau. Elle ne bougeait plus, donc il a dû frapper fort. Après, je l'ai apportée chez moi et j'ai vidé l'eau en la laissant dans le sac plastique. Puis je l'ai mise dans mon frigo. Je ne l'ai préparée que le lendemain. Je pense qu'elle est morte de froid.
Devant le supermarché, Paveo se souvient quand il était enfant de cette tradition de Noël.
Quand j'étais petit, c'était mon papa qui était obligé de s'occuper de la carpe dans la journée du réveillon. Et malheureusement, ça ne se déroulait pas d'une façon agréable vu les normes actuelles. D'abord, il l'étourdissait en l'assommant. Et après, avec le couteau, il lui coupait la tête. Mais j'imagine que certaines personnes ont aussi pu la tuer en l'électrocutant directement dans la baignoire.
Après la Seconde Guerre mondiale, pour Noël, le régime communiste avait décidé d'offrir une carpe vivante à chaque famille polonaise. Un poisson très facile à élever. Et comme les frigos étaient rares, la carpe barbotait dans la baignoire jusqu'au réveillon. Nicolas Rey, chroniqueur gastronomique à la télévision polonaise, se rappelle parfaitement durant son enfance de la carpe dans la salle de bain de sa tante.
On s'empressait d'aller dans le jardin chercher de la terre, chercher de l'herbe, chercher des petits vers de terre pour lui recréer son habitat naturel. Rapidement, la salle de bain de la tante se transformait en auge à cochon. Nous, on se marrait énormément et puis surtout, on s'imaginait comment est-ce que notre tante allait se baigner dans cette baignoire avec ses gros poissons, et l'herbe, les cailloux, les vers de terre et tout ce qui peut aller avec. C'était vraiment phénoménal.
Beaucoup de souvenirs, de bonnes rigolades. Et contrairement à d'autres, pas de problème éthique pour Nicolas Rey.
Pourquoi est-ce que quand on va dans un grand restaurant ou quand on va même dans un supermarché en France, on est complètement émerveillé de voir des homards dans un aquarium? Parce que c'est la vie, parce que c'est beau, parce que ça met l'eau à la bouche. C'est pas juste un morceau de viande découpé, plastifié, mais on a un animal et on va pouvoir en faire de la vraie cuisine de A à Z. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lever les filets, faire une soupe avec les arêtes, avec la tête. On a un contact véritable avec une bête qu'on va manger. Et c'est un vrai symbole.
Un symbole qui, pour certains, n'a plus lieu d'être.
Bonjour, David,
enchanté. David Gaborio, chef cuisinier franco-polonais, ne la prépare que sur demande. Et il le dit sans détour, la carpe, ce n'est vraiment pas bon.
C'est rentré tellement dans les mentalités polonaises que même le goût, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas terrible. Parce que aujourd'hui, c'est des cultures qui sont intensives. C'est un poisson qui n'a pas le temps de le mettre d'un bassin à un autre pour qu'il se vide et pour qu'il se nettoie. Donc c'est un poisson qui sent le goût de vase, qui n'est pas facile à travailler. Moi je trouve que la carpe c'est un peu obsolète. Surtout que c'est même plus une envie, j'ai l'impression que c'est vraiment la tradition. C'est que s'il n'y a pas de carpe à Noël, on est banni de la maison. J'exagère un peu, mais bon, je respecte les traditions. Mais sauf que c'est pas une tradition polonaise qui a 900 ans, mais c'est une tradition polonaise qui a 50 ans, qui était imposée par le régime communiste. Donc c'est encore plus absurde.
La vente de carpes vivantes dans de minuscules bassins est dénoncée depuis quelques années par les associations de défense des animaux. Et depuis l'an dernier, elles ont réussi à faire stopper cette pratique dans plusieurs grandes chaînes de supermarchés comme Auchan, Leclerc ou Biedronka. Cesare Wyszyński est le président de Viva International en Pologne. Chaque jour, il reçoit de nombreux rapports sur les mauvaises conditions de vie des poissons.
On peut voir assez souvent du sang dans les piscines. Des petits morceaux de chair car les poissons sont blessés. Donc l'eau est couleur sang, sale, sans oxygène et surpeuplée de poissons. Ils sont ensuite achetés et mis en général dans un sac plastique sans eau. Ils sont balancés dans le caddie et parfois, les clients mettent des produits par-dessus, l'écrasent et laisse ce pauvre poisson suffoquer.
Il existe pourtant des lois contre la maltraitance animale en Pologne, mais le sort de la carpe ne semble pas intéresser beaucoup les autorités.
D'après la loi polonaise de protection animale, il est interdit de tuer un poisson ou un quelconque animal soi-même. Pourtant, ça arrive encore. Évidemment, la police ne va pas frapper à chaque porte pour vérifier que vous ne tuez pas une carpe chez vous. C'est pour ça que la vente de carpes vivantes devrait être interdite, ça résoudrait le problème.
Cesare Wyszyński veut continuer à faire pression contre Carrefour, la dernière grande enseigne à vendre des carpes vivantes. S'il le faut, il ira en justice pour faire stopper cette pratique qui, selon lui, vient d'un autre temps. À Varsovie, Fanny Boucaud, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec notre correspondante en Pologne. Bonjour Fanny.
Bonjour Sophie.
Alors cette tradition de la vente de carpes vivantes, elle date vraiment de la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, absolument. Le régime communiste s'est servi de la carpe comme d'un moyen de propagande idéale. Ouais. En fait, il offrait un poisson vivant aux ouvriers pour leur famille. Mmh. Ça fait beaucoup de poissons, des millions seulement pour Noël. Il faut dire que la carpe est aussi très facile à produire. Elle n'a besoin que d'eau et de vase pour se nourrir. Mmh. Et en moins de 3 ans, vous obtenez un poisson entre 3 et 6 kilos, voire plus. Mmh. Avant la guerre, ici en Pologne, la carpe était surtout très appréciée dans la cuisine juive. Mmh. Mais plus généralement, les poissons d'eau douce sont très populaires ici parce que dans le calendrier polonais, il y avait au Moyen-Âge environ 120 jours où il était interdit de manger de la viande à cause des fêtes religieuses. Mmh. Et puis la carpe se mange en Pologne depuis très longtemps, depuis le XIIe siècle.
Du coup, c'est un vrai secteur économique encore ?
Ah oui, la Pologne est le plus grand producteur de carpes en Europe avec plus de 3000 élevages qui font vivre environ 5200 salariés. Les étangs et la pisciculture se situent principalement dans le sud du pays, là où s'est installé justement les moines au XIIe siècle. Mmh. Et donc ça perdure. En Europe, la carpe est traitée comme un poisson comestible dans assez peu de pays en fait, en République tchèque, en Pologne donc, mais aussi en Allemagne. En France, c'est très rare qu'on la voit proposée au menu au restaurant ou sur les étals des poissonneries. On connaît plutôt la carpe justement pour la pêche, mais sportive, la pratique du no-kill. On la pêche, puis ensuite on la relâche.
Ouais, c'est pas mal ça, hein. Comme ça la carpe peut retourner s'occuper de ses petits poissons.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron.
Voilà, on aura reconnu Bobby Lapointe évidemment. Merci Fanny pour ce reportage très complet sur la carpe de Noël dans les familles polonaises. À très vite dans les carnets.
À très vite Sophie.
La suite de ces derniers carnets 2019, c'est une sélection de quelques-uns des grands reportages qui nous ont marqués cette année. Avec d'abord une virée en Galice, en Espagne, dans une ville où les voitures ne pénètrent presque plus. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est Europe 1, bienvenue aujourd'hui. L'équipe des carnets du monde vous propose de revisiter 2019 avec quelques-uns des grands reportages réalisés cette année. Beaucoup d'entre eux se penchaient sur la planète et le climat, Sophie Larmoyer.
L'impact de nos modes de vie sur le dérèglement du climat, c'est vrai, on en a beaucoup parlé cette année et ce sera encore le cas l'an prochain vu l'urgence de la situation. Fin mai, au moment du scrutin européen, l'Espagne élisait aussi ses maires et on en avait profité pour découvrir Pontevedra, une ville qui réélit son maire sans discontinuer depuis 20 ans. Pontevedra, c'est en Galice, à la pointe ouest de l'Espagne, tout près du Portugal. 84 000 habitants, un peu comme Avignon par exemple. Et c'est une ville qui, sous l'impulsion de son maire et de façon très volontariste, est progressivement devenue une ville quasi sans voiture. Une ville où l'on respire, où l'on marche, une ville aimable pour ses habitants et notamment les enfants. Notre correspondant en Espagne, Henri de la Guérie, nous avait proposé un grand bol d'air. Voici son reportage.
Radio Vigo, Cadena Ser. Comme chaque jour, Juan Carlos, la cinquantaine, prend sa voiture pour rejoindre Pontevedra, là où il travaille. Le trajet dure 20 minutes, il habite à la campagne. La Galice a un surnom, la Bretagne espagnole. C'est très vert et très humide, il pleut ce matin. Il est 8h45, Juan gare sa voiture à l'entrée de la ville.
Je laisse mon véhicule ici dans un parking périphérique de la ville et je finis en marchant. La distance est courte, en 5 minutes je suis au travail.
Les quatre grands parkings de délestage sont tous gratuits. Depuis 25 ans, Juan Carlos est le responsable du service de nettoyage de la ville. Il a connu l'époque des encombrements et de ces voitures qui tournaient pendant des heures à la recherche d'une place libre.
Je me souviens par ici, c'était rempli de voitures mal garées. On ne pouvait pas circuler. J'étais le conducteur du camion. Il y avait deux employés. Parfois, on était obligé de déplacer les voitures pour passer. Sinon, on restait bloqué.
Aujourd'hui, le camion passe sans problème et le travail est fait deux fois plus vite. Dans les rues, c'est le calme qui règne. La voie publique est occupée par des bancs et des terrasses de café. On ne croise que des gens à pied ou à vélo. C'est en 1999 que les voitures ont peu à peu été chassées du centre-ville. La mairie a commencé par supprimer toutes les places de stationnement à l'air libre, tout en créant les quatre grands parkings. Les panneaux de signalisation, les passages piétons et les feux tricolores ont été retirés. Aujourd'hui, la circulation n'est pas complètement interdite, mais elle est réservée aux véhicules d'urgence, aux services publics et aux livreurs. En milieu de matinée, alors que le soleil est revenu, Annabella promène sa petite fille en poussette dans la grande rue commerçante.
Les voitures passaient ici. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, il n'y en a plus. Les trottoirs sont très larges et la chaussée est au même niveau. On peut marcher tranquillement. Les enfants peuvent même se promener tout seuls. Il n'y a plus aucun danger.
À Pontevedra, il n'y a pas non plus de bus ou de tramway. Résultat, 70% des déplacements se font à pied. L'homme à l'origine de cette révolution s'appelle Miguel Ancho Fernandez, architecte et maire depuis 20 ans. Il nous reçoit dans son bureau.
J'ouvre la fenêtre, on est au troisième étage et pourtant, on entend parler des gens dans la rue. Ce n'est pas normal dans une ville de nos jours.
Il y a donc beaucoup moins de bruit, on respire mieux. En 20 ans, les émissions de CO2 ont diminué de 60%. Il n'y a plus d'accidents. Mais ce dont le maire est le plus fier, c'est la renaissance du centre-ville.
Quand le projet a démarré, on a demandé à un libraire s'il était favorable à la piétonnisation. Il a répondu « Aucune voiture n'est jamais entrée dans ma librairie pour acheter un livre ». Et c'est vrai. Une fois qu'on a rendu les rues aux piétons, les boutiques et les commerces de proximité ont multiplié leurs ventes par trois. Les gens achètent quand ils sont à pied. Nous, on n'est pas favorables aux grands centres commerciaux, ils ne font que vider les villes. Ça n'a pas de sens de sortir de la ville, prendre la voiture pour acheter une baguette, pour revenir ensuite dans le centre. Ça ne fait qu'appauvrir l'espace public. Les petits commerces, ça dynamise le centre-ville.
Et ça attire du monde. Pontevedra est la seule ville de Galice qui gagne chaque année des habitants. À quelques centaines de mètres de la mairie, vers 11h30 devant l'entrée d'une école, Justo Fernandez délimite un grand espace sur la voie publique à l'aide d'un ruban de chantier. C'est le directeur de l'école.
Là, on est sur une place en plein centre de Pontevedra. 400 enfants de maternelle et de primaire sont en train de sortir. C'est le moment de la récréation. Et ici, c'est leur cours. Avant, ils allaient dans un espace de récréation à l'intérieur. C'était un désastre car les enfants ne pouvaient pas mettre le nez dehors. Ils ne pouvaient pas se défouler, ils ne faisaient pas de sport, c'était très compliqué. Alors que là, on a noté une nette amélioration. Quand les enfants retournent en classe, ils sont beaucoup plus détendus.
En expulsant les voitures, les habitants et les plus petits d'entre eux, les enfants, se sont appropriés l'espace public. Cette cour de récréation dans la rue, c'est d'ailleurs leur idée. Plusieurs écoles de Pontevedra ont fait la même chose. Pour le maire, piétonniser la ville, c'est aussi une manière d'intégrer les plus jeunes et les rendre autonomes.
On
a un énorme problème dans toutes les grandes villes. Il a été calculé que les enfants ne sont à l'air libre qu'entre une demi-heure et une heure par jour. C'est hallucinant. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un enfant se mouille à peine et déjà on s'inquiète. C'est la génération du siège bébé. Cette surprotection stupide fait que l'enfant s'éveille moins vite. Un enfant qui va à l'école à pied, marche avec ses amis, il parle avec eux, il apprend à connaître l'espace et l'endroit où il vit, il a de meilleurs résultats à l'école. Et puis, ceux qui viennent en voiture arrivent toujours en retard. L'enfant qui se responsabilise, se lève, s'habille, prend son petit déjeuner, va à pied à l'école, il arrive toujours à l'heure.
Au café, dans la rue et dans les commerces, il y a bien quelques habitants qui râlent contre certaines difficultés engendrées par cette politique en faveur des piétons. Mais personne ne regrette l'époque des voitures. Dans cette région, pourtant classée à droite, le maire, issu d'une formation régionaliste de gauche, a été réélu 4 fois de suite. Pontevedra, Henri de la Guérie, Europe 1.
La ville sans voiture, plébiscitée par ses habitants, fin mai, le maire de Pontevedra a été réélu pour un 5e mandat. Et la ville est d'ailleurs devenue un modèle. Écoutez les explications d'Henri de la Guérie.
Pontevedra a été récompensée à plusieurs reprises. Elle a notamment reçu un prix de l'ONU. Cette ville est érigée aujourd'hui en modèle de développement urbain à travers le monde. L'équipe municipale travaille d'ailleurs avec la mairie de Paris. Alors évidemment, les proportions ne sont pas les mêmes, mais il y a beaucoup de choses exportables. Le maire Miguel Ancho Fernandez encourage en tout cas ses homologues en Europe à suivre son exemple.
Voilà ce que je recommande. Il faut faire preuve de courage pour se lancer dans ce projet. Parfois, les doutes ou les oppositions sont liés à certains privilèges. La voiture reste un signe extérieur de richesse et de puissance économique, mais lorsqu'on marche ensemble, on est tous sur un même pied d'égalité. En tout cas, cette peur de ne pas être réélu est irrationnelle. C'est l'inverse qui se produit.
Henri, l'exemple de Pontevedra est assez unique, même si en Espagne, les grandes villes commencent, elles aussi, à repousser les voitures hors de leur périmètre.
Oui, c'était clairement l'un des sujets de campagne de ces municipales. La capitale, Madrid, par exemple, elle est à 700 mètres d'altitude et les pics de pollution sont fréquents. La mairie a lancé, il y a 6 mois, Madrid Central. Seuls les riverains et les véhicules de service ont désormais le droit de circuler dans le centre. C'est une zone de près de 500 hectares. Cela faisait hurler l'opposition qui pronostiquait une apocalypse. Mais en fait, la mesure a été bien acceptée et déjà, elle ne fait plus débat. À Barcelone également, des super îlots ont été mis en place, d'immenses pâtés de maisons rendus aux piétons, des squares, des tables de ping-pong, des tables de pique-nique ont été installées au milieu d'anciens carrefours. Et désormais, le dimanche, eh bien, les repas de famille ou les goûters d'anniversaire se font dans la rue.
Et cette politique anti-voiture, entre guillemets, ne concerne pas seulement les villes.
Non, de plus en plus de sites touristiques et de plages notamment sont désormais inaccessibles en voiture. Formentera au Baléares est allé un peu plus loin. Un quota de véhicules en circulation vient d'entrer en vigueur sur l'île. Enfin, Sophie, je vous donne ce dernier chiffre intéressant. Aujourd'hui en Espagne, il y a presque 2 fois moins de candidats au permis de conduire chez les 18-30 ans qu'il y a 15 ans. Alors la crise est passée par là, bien sûr, mais pas seulement. De plus en plus de jeunes ne voient plus vraiment l'intérêt de conduire.
Voilà quelques éléments de réflexion sur la place de la voiture. Une question qui nous interpelle encore un peu plus hein, pendant les périodes de grève, quand on est privé de transport en commun. Et de toute façon, il va bien falloir trouver des solutions, car le climat se détraque et c'est déjà très concret pour certains.
Europe 1, les carnets du monde.
Et dans les carnets du monde, sur Europe 1, on file à Phoenix maintenant, aux États-Unis, où les habitants vivent déjà au quotidien les effets du réchauffement climatique, Sophie Larmoyer.
Que fait-on concrètement face au dérèglement du climat, aux atteintes à la biodiversité et plus généralement à notre planète ? On en parle beaucoup dans les enceintes internationales, notamment à l'ONU, avec un grand sommet en septembre, et puis la COP25 à Madrid ce mois-ci qui a accouché d'une souris. En France, a été mise en place la Convention pour le climat, 150 citoyens français tirés au sort, ont 6 mois pour plancher et faire des propositions. Et puis, il y a des sortes de laboratoires, des endroits où les bouleversements sont déjà tellement concrets qu'on s'adapte, on imagine comment vivre autrement. C'est Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis, qui nous a emmenés à Phoenix, en Arizona, l'une des villes qui se réchauffe le plus vite. Il y est allé fin septembre, au tout début de l'automne, et il faisait encore très, très, très chaud. Écoutez ce qu'il nous racontait.
Oh bah, tous les jours, on dépasse assez facilement les 100 degrés Fahrenheit. Alors, ça veut dire 38 degrés Celsius à l'ombre, comme en fait un tiers de l'année. Et encore, on était mi-septembre. Imaginez en juillet ou en août, parfois, on atteint les 50 degrés. Et puis, vous le sentez, hein, le soleil est très accablant, très violent. C'est pour ça que les habitants vivent de plus en plus la nuit. On adapte les horaires. Le zoo, par exemple, de Phoenix ouvre à 6 heures du matin.
Alors, on va vous suivre justement dans cette vie si particulière des habitants de Phoenix, obligés de changer leur mode de vie à cause du réchauffement climatique. Reportage.
La nuit vient de tomber sur Phoenix. Il est 19h, l'heure pour le camion de glace d'aller chercher les clients avec sa petite musique lancinante. Les enfants sortent enfin dehors. Direction le parc à jeux, sous les lampadaires, Abel regarde ses deux fils et sa fille s'ébattre dans les jets d'eau.
Oui, le chien, les gamins, tout le monde doit sortir dehors, même tard. Dès que vous avez une chance, s'il y a des nuages par exemple, tout le monde en profite pour sortir sa famille. Il fait une chaleur de dingue, mec.
Dans la pénombre du parking voisin, Bjorn vient d'arriver pour son jogging quotidien. Maintenant, en mi-septembre, quand le soleil se couche, ça se rafraîchit un peu, dit-il en courant. Mais en juin, en juillet, au crépuscule, c'est impossible, il fait encore trop chaud. Sur le parcours, on croise d'autres sportifs en train de s'étirer dans le noir. Au même moment, les terrasses des bars et des restaurants de la ville se remplissent. Certains habitants de Phoenix s'apprêtent, eux, à commencer le travail. Devant un immeuble en travaux du centre-ville, rendez-vous avec Frédéric Douet, un Français qui gère des ouvriers du bâtiment pour une boîte d'intérim. Coiffé d'un casque de chantier, il accompagne l'un de ses électriciens.
Là, j'ai un employé qui commence à travailler ce soir. Il est 10h du soir. Il fait 31 degrés. Je suis un petit peu quand même, en fait. C'est pas des horaires normaux, ça c'est certain, à cause de la chaleur. Et aussi, j'en ai d'autres qui commencent à 3h du matin. Ah oui, moi j'ai des petites nuits.
Il fait bon à 3h du matin ?
Ah oui, peut-être en dessous des 30, 3h du matin, ça va, c'est parfait.
Car Phoenix s'anime aussi très tôt le matin. Dès 5h, le trafic est dense sur certains axes. Et à cette heure-là, le parking au pied de la montagne Camelback se remplit vite. Il y a un chemin de randonnée très fréquenté tant qu'il fait encore noir. Il fait 26 degrés, c'est parfait pour marcher, dit Jennifer. Cet ingénieur en profite, car ici, dès que le soleil se lève, tout le monde rentre à l'intérieur. Vous passez de votre appartement climatisé à votre bureau climatisé, à votre voiture climatisée, raconte Jennifer. En journée, Phoenix baigne dans l'air conditionné, au point que certains laissent même leur voiture allumée sur le parking quand ils vont faire les courses.
We will all melt in there,
sans clim, on va tous fondre, rigole Francisco, un lycéen de 17 ans, qui n'en peut plus de cet été sans fin. Quittera-t-il un jour l'Arizona ? Oui, dit-il, j'ai déjà pensé à aller dans des états plus froids, mais au moins ici, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Je préfère la chaleur aux ouragans de Floride.
Then go out like to Florida where they're having, you know, hurricanes.
Pourtant, comme de nombreux habitants de Phoenix, Francisco sent bien que les étés sont de plus en plus chauds. Son père, ouvrier du bâtiment, se souvient qu'il ne commençait pas aussi tôt le matin il y a quelques années. Et le pire est à venir.
It is projected that heat waves will last longer.
les vagues de chaleur vont être plus longues et plus fréquentes, explique Ariane Middle, prof et chercheuse à l'Université de Phoenix. Elle étudie les effets du climat sur l'urbanisme.
Ce que nous avons aussi remarqué, c'est que les températures minimales la nuit ont augmenté ces dernières décennies. On appelle ça l'effet îlot de chaleur urbain. L'asphalte des routes ou des parkings, toutes ces surfaces collectent la chaleur pendant la journée et elles la relâchent lentement la nuit.
Dans son laboratoire, l'universitaire a fabriqué une mini-station météo sur roulette. Avec, elle sillonne les rues de la ville pour mesurer les températures, repérer ces poches de chaleur et proposer des solutions.
C'est un laboratoire vivant ici. Nous pouvons tester des stratégies. Par exemple, imposer une certaine surface d'ombre au carrefour. Tout ce que nous pouvons trouver ici à Phoenix sera très précieux pour d'autres villes à travers le monde. Nos conditions sont déjà très chaudes. Et ce que nous voyons ici peut devenir la norme ailleurs dans le futur.
Ariane Middle et ses collègues travaillent de concert avec la municipalité qui a décidé de faire de Phoenix la première ville heat ready, parée pour la chaleur.
Retour dans le studio d'Europe 1, on a chaud, on a enlevé un pull là d'un seul coup. Vous êtes toujours avec nous, Xavier Yvon ?
Toujours, et toujours chaud.
Et toujours chaud. Phoenix a pris conscience du problème, mais quelles mesures ont été prises concrètement pour l'instant ?
Alors, il y en a une très importante qui a été appliquée cet été, pour l'instant provisoirement. Les compagnies d'électricité de l'Arizona n'ont plus le droit de couper le courant aux mauvais payeurs pendant les mois les plus chauds, exactement du 1er juin au 15 octobre. C'est un peu comme la trêve hivernale chez nous, mais à l'inverse. Ouais. Voilà. Mais à l'origine de cette mesure, il y a une histoire tragique, celle de Stéphanie Pullman, une habitante de la banlieue de Phoenix, âgée de 72 ans, au maigre revenu. Il y a un peu moins d'un an, elle tarde à payer sa facture d'électricité. Son fournisseur coupe le courant et plus de nouvelles. Ses filles qui habitent loin donnent l'alerte. On l'a finalement retrouvée morte de chaud chez elle. Elle n'avait plus la clim, il faisait 42 degrés ce jour-là. C'était début septembre. Tout ça parce qu'elle avait une dette de 51 $.
Donc trêve estivale. Est-ce qu'il y a beaucoup de décès comme celui-là qui sont liés à la chaleur en Arizona ?
Oui, il y en a de plus en plus. Les morts liées à la chaleur ont triplé en 3 ans. 76 décès en 2014, 235 en 2017. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi visible qu'après un ouragan, par exemple. Comme le dit la chercheuse que vous avez entendue, Ariane Middle, la chaleur est un tueur qui ne fait pas de bruit. Mais certains experts préviennent, Phoenix pourrait bientôt vivre un Katrina de la chaleur, un scénario catastrophe qui verrait une vague de chaleur extrême faire sauter l'électricité, comme l'ouragan avait fait sauter les digues de la Nouvelle-Orléans. Plus d'électricité, donc plus d'air conditionné dans une agglomération de 4 millions d'habitants. Ah. Vous imaginez le désastre.
Ouais, ouragan ou canicule. On l'a entendu dans votre reportage, cet habitant de Phoenix qui se dit qu'il est mieux loti que ceux qui sont en Floride. Est-ce qu'il y a d'autres États comme l'Arizona qui sont en première ligne du réchauffement climatique, qui mène des politiques aussi pour limiter ses effets?
Alors, tous les États américains sentent les effets du réchauffement, selon les experts. La Californie subit des sécheresses historiques et des incendies monstrueux. Les ouragans en Floride, on l'a vu, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Le Midwest est de plus en plus inondé par des pluies diluviennes. Mais tous les États n'ont pas le même niveau de conscience ou de préparation. Prenez les deux plus grands, la Californie et le Texas. La Californie est en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, elle se bat contre l'administration Trump. Elle est en pointe aussi dans la prévention de ses conséquences. Le Texas, lui, qui est menacé par des inondations côtières, la sécheresse et les chaleurs extrêmes, n'a presque rien prévu. Mais il faut dire que c'est l'État où les énergies fossiles sont reines. Et puis, il y a l'exemple de New York, menacé par la montée des eaux, qui a prévu un plan de près de 20 milliards de dollars, avec notamment une digue rétractable pour protéger le sud de Manhattan.
Voilà, ce reportage de Xavier Yvon, c'est concret. Ce ne sont pas des menaces hypothétiques pour l'avenir, ça se passe aujourd'hui. Et puis début novembre, les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, se sont officiellement retirés de l'accord de Paris sur le climat.
Europe 1, les carnets du monde.
Et changement de décor dans les carnets du monde avec un événement qui a marqué là encore 2019. Sophie Larmoyer, c'est l'organisation de la Coupe du monde féminine de football. C'était en France, c'était en juin et juillet.
Le foot féminin, une discipline qui était déjà depuis plusieurs années en France en forte progression chez les filles, En 4 ans, entre 2013 et 2017, le nombre de pratiquantes a progressé de 83%. C'est un sport jeune chez nous, il n'est apparu que dans les années 70. Mais malgré cette Coupe du Monde, malgré son franc succès, l'affluence dans les stades reste très modeste. C'est le bilan que le président de la Fédération française de foot a dressé il y a juste 2 semaines. Mais il n'y a pas que chez nous que les joueuses de foot ont du mal à se faire connaître. Au début du Mondial, début juin, Hélène Cole nous avait fait découvrir comment les footballeuses de la Mannschaft avaient réussi à attirer l'attention du public et des médias grâce à une petite vidéo très réussie qui avait fait le buzz.
Hélène Kohl nous racontait ça depuis Berlin, bien sûr.
90 secondes, comme les 90 minutes d'un match de foot, alors à pleine allure, tournée façon clip de rap ou jeu vidéo avec des effets de zapping, des images qui sautent, des incrustations sur l'écran. 90 secondes qui ont été vues un demi-million de fois sur Internet. Et puis, depuis la mi-mai, le spot, qui est en fait une publicité pour l'un de leurs sponsors, est aussi diffusé sur une douzaine de chaînes de télévision et notamment sur la première chaîne publique, ARD, juste avant le journal télé du soir. Et ça secoue. Écoutez le début.
Tu sais au moins comment je m'appelle.
Et moi ?
Ouais, c'est ça.
Nous jouons pour une nation qui ne connaît pas nos noms. Mais nous avons été trois fois championne d'Europe, ça tu le sais, hein ? Non ? Ah, c'est vrai, en vérité, c'était huit fois. Pour notre premier titre, on a reçu un service à café.
Voilà, du rythme et beaucoup d'ironie. Le coup du service à café, on y croit à peine quand même. Hein.
Pourtant, c'est bien vrai. Hein. C'était un cadeau d'un grand groupe de vaisselle allemande d'une valeur de 1000 euros. Ouais. Alors aujourd'hui, elles peuvent s'estimer bien loties puisque si elles décrochent le titre en France dans un mois, les footballeuses allemandes recevront chacune 65 000 euros. Mmh. C'est tout de même encore 5 fois moins que leurs collègues de l'équipe masculine.
Et on ne connaît toujours pas leur nom.
Et non, alors quand même, il y a Alexandra Popp, ça ne vous dit rien évidemment. Il y a peut-être Jennifer Mazoran, alors elle joue à Lyon, elle vient de gagner la Ligue des Champions. Mais rassurez-vous, la presse allemande ne fait pas mieux. La semaine dernière, un magazine sportif a confondu les gardiennes en légendant une photo. Et d'ailleurs, c'est vraiment le message de ce spot vidéo. Les footballeuses ne veulent pas être des stars, elles veulent juste qu'on les respecte pour ce qu'elles sont, de grandes sportives très titrées.
C'est ok, tu n'as pas besoin de savoir reconnaître nos visages. Mais par contre, n'oublie pas ce que nous voulons, jouer.
Alors elles veulent jouer leur foot à elles, affronter des adversaires, mais aussi affronter les préjugés. Vous savez, le foot des filles, c'est trop lent, c'est pas assez technique, à peine au niveau du sport amateur, les filles devraient rester chez elles, elles devraient préférer mettre des talons. Et bien dans cette vidéo, les championnes olympiques en titre montrent qu'elles en ont sous leurs crampons, fières, pleines de réparties volcaniques et même un peu provoques.
Mais tu sais quoi ? Nous n'avons pas besoin de couilles. Nous avons de vraies queues de cheval.
Pardon ?
Nice. Elles y vont carrément, Hélène.
Ouais, alors en anglais, le passage est traduit de manière un petit peu plus subtile, mais c'est clair que c'est la petite phrase qu'on a retenue ici. Alors maintenant, il faut terminer de convaincre le public allemand avec des buts, bien évidemment. L'Allemagne n'a pas un groupe facile dans cette compétition avec la Chine, l'Espagne et l'Afrique du Sud.
Voilà, et c'est finalement en quart de finale que l'équipe allemande s'est inclinée face à la Suède. On avait aussi profité de ce mondial féminin de foot pour découvrir dans les carnets une équipe épatante, celle de la Kibera Girls Soccer Academy. Kibera, c'est le plus grand bidonville du Kenya, près de la capitale, Nairobi. Les joueuses de l'équipe progressent sans cesse depuis 10 ans. Elles évoluent désormais en Ligue nationale kenyane. Et une école s'est construite autour d'elles pour offrir une éducation gratuite aux jeunes filles du bidonville. Plus de 300 élèves y ont déjà été formés. Je vous propose de réécouter le reportage de Charlotte Simonard, la correspondante d'Europe 1 au Kenya.
Sur un vaste terrain vague, entre les tas d'ordures fumantes en décomposition et les chèvres venues y trouver un peu de nourriture, une dizaine de filles de 18 à 24 ans s'entraînent. C'est la Kibera Girls Soccer Team. Parmi elles, Zineb, 24 ans.
J'ai grandi ici, j'ai commencé à jouer au foot, j'avais 10 ans avec les garçons du bidonville. Quand ils ont ouvert l'académie, je m'y suis inscrite après l'école primaire.
Zineb fait partie des premières joueuses de cette équipe de Kibera créée en 2002. Au bord du terrain, Mohamed, vêtu d'une longue djellaba blanche, il est leur entraîneur depuis 12 ans.
J'aurais jamais cru pouvoir le faire. Au début, je me disais entraîner des filles. Non. Mais finalement, je suis là et elles sont incroyables. Je suis vraiment fier d'elles. Ce qu'un homme peut faire, elles le font deux fois mieux.
Il y a 15 ans, soutenir une équipe féminine de football était un véritable défi dans cette société conservatrice et patriarcale. Shanissa est une passionnée depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, à 19 ans, le foot lui offre un avenir meilleur.
Dans le bidonville, les femmes sont sous-estimées. Elles sont censées faire le ménage, à manger pour leur mari, avoir des enfants. Quand on a une passion comme le foot, cela vous donne un but dans la vie. Le foot me permet d'avoir confiance en moi, une meilleure estime de moi. Je peux être indépendante. Parce que les valeurs que nous apprenons sur le terrain, nous les appliquons dans notre vie quotidienne.
À moins d'un kilomètre du terrain, une centaine de jeunes filles de 15 à 18 ans suivent leurs leçons quotidiennes sur les bancs de l'école. Géographie, sciences, histoire ou encore théâtre, les bâtiments sont spartiates de briques et de tôles. Si aujourd'hui toutes ne jouent pas au ballon rond, cette école gratuite a d'abord été créée pour les footballeuses du bidonville. Richard Teka est le directeur des programmes.
Au début, on a choisi le football pour notre académie car on s'est rendu compte que beaucoup de filles tombaient enceintes très jeunes. Elles se mariaient, arrêtaient l'école et renonçaient aux études. On voulait sensibiliser les hommes sur les rêves des femmes et leurs capacités. Nous avons donc pensé au football, car c'est un sport que les hommes suivent et c'était une manière d'attirer leur attention.
Une sensibilisation lente et difficile.
Je me souviens quand on a lancé l'équipe féminine de foot, les garçons les chassaient du terrain. Ils leur disaient d'aller faire la vaisselle, qu'elles n'étaient pas censées être ici mais à la maison. Mais ensuite, les joueuses ont commencé à battre les équipes de garçons. Les hommes ont fini par les considérer et aujourd'hui, ils viennent les encourager.
Depuis sa création, plus de 300 élèves ont été formés ici. La plupart continuent ensuite à l'université grâce à la fondation de l'académie. C'est le cas de Delifa, ancienne élève ici, aujourd'hui revenue en tant que professeure.
Quand j'ai terminé l'école primaire, j'avais 13 ans. J'ai commencé à travailler avec ma mère à son hôtel. C'était mon destin. Je n'avais aucune chance de continuer l'école, c'était terrible. Puis quand je suis venue à Kibera, ma tante m'a inscrite dans cette école et c'est comme ça que j'ai pu accéder aux études supérieures. C'était mon rêve.
Un internat devrait ouvrir prochainement pour aider les jeunes filles au quotidien et les sortir un peu plus de la misère de Kibera. Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Voilà quand le sport, et le foot en l'occurrence, permettent un meilleur accès à l'éducation. Dans un instant, un tout autre sujet qui a également bien occupé l'année 2019, et ce n'est pas fini, c'est le Brexit.
Europe 1, les carnets du monde.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Sophie Larmoyer. Le divorce aura finalement lieu sans doute en 2020. La Grande-Bretagne devrait finalement quitter l'Union européenne comme ils l'ont décidé il y a 3 ans et demi.
C'est l'Arlésienne depuis le vote des Britanniques en juin 2016. L'échéance a plusieurs fois été repoussée et cette fois c'est le 31 janvier que le Brexit devrait bien avoir lieu. Dans quelles conditions, personne ne sait très bien encore. À cette date débutera une période de transition prévue jusqu'à fin 2020, le temps de négocier les termes de la relation future. Une situation qui suscite toujours beaucoup d'inquiétudes chez les quelques 3,5 millions d'Européens installés là-bas en Grande-Bretagne et dont le statut migratoire va changer. Et inquiétude également pour les Britanniques expatriés en Europe. En France, ils sont environ 200 000, présents parfois depuis très longtemps. Ils ont fait leur vie ici et vont perdre leur statut de citoyens de l'Union européenne. Deux d'entre eux étaient venus nous rendre visite à Europe 1, Jennifer Wright et Paul Stamper. Ils sont collègues de travail, tous deux designers chez le constructeur automobile Renault et tous deux arrivés en France en 1998. Et je leur ai d'abord demandé ce qu'ils avaient pensé au moment du vote en faveur du Brexit en juin 2016. Écoutez leurs témoignages, Jennifer Wright et Paul Stamper.
La question qui me posait tout d'un coup, mais c'est qui suis-je par rapport à ça? J'ai toujours vécu en France avec beaucoup de simplicité, c'était simple et naturel, je me sens européen. Du coup, je suis juste la plus européenne. Je suis britannique, mais quel est mon statut? Quel est mon droit de travail? Qu'est-ce qui se passe dans le futur si ça devient encore plus compliqué? Et qu'est-ce que je dois faire parce que, par rapport à mon employeur
Un grand vide, quoi, d'un
oui,
coup.
Oui, un vide hein, et une espèce de tristesse et un vide parce que je ne sais plus où je suis, parce que je ne suis plus presque britannique, tout en étant très britannique. Je ne suis pas français et je me sens européen, mais ça n'existe plus pour moi.
Et vous, Paul, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là?
Pareil comme Jenny, en fait. Je sentais un peu vide. Je ne sais pas à quels endroits je mets mes pieds, mais pour moi, j'habite ici, ma vie c'est ici, je travaille, ma vie c'est en France, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est flou pour moi.
Ce sont des questions aussi tout simplement de droit social qui se posent aussi
Oui, parce que par exemple, la sécurité sociale, la santé et maladie, pour moi, depuis le début, c'était simple. J'ai ma carte vitale et il y a une réciprocité. Mais quel est mon statut? Est-ce que j'ai des démarches à faire? Est-ce que je suis protégée? Est-ce que par exemple, mon employeur, je dois de nouveau mettre en situation? Est-ce que j'ai le droit de continuer? Quelle est ma place? Et pour la retraite aussi? Est-ce que ça peut poser des choses? Oui, exactement, parce que je ne suis plus une Européenne. Je suis égale à n'importe quel citoyen du monde. Je peux être un Indien ou un Chinois. Et je suis, voilà, je n'ai pas la même situation.
Beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses à ce moment-là.
Mais oui, parce que je sentais vraiment une frustration. Parce qu'en fait, la partie administrative, ce n'est pas clair pour nous pour le moment. Mais aussi la partie de vote, parce qu'on n'a pas le droit de voter en Angleterre.
Alors ça, il faut qu'on l'explique. Hein. Quand on est hors de Grande-Bretagne depuis plus de 15 ans, au moins 15 ans, on n'a plus le droit de vote.
Tout à fait.
Alors que vous avez pendant 15 ans voté par correspondance en Grande-Bretagne. Oui. Vous n'avez plus le droit de voter là-bas.
Non, en France,
vous ne votez que pour les européennes et les municipales.
Tout à fait.
Donc, il y a une question de citoyenneté, quoi, de civisme.
Oui.
On se sent, en fait, comme si on n'existe nulle part au niveau de la droit de vote. On vit ici, mais notre droit de s'exprimer sur l'état de la lieu, on n'en a plus. Et donc, on nous dit, mais je suis quoi? Et j'ai un concern pour la politique, mais à quoi je peux m'exprimer?
Et par exemple, vous n'avez pas pu voter pour ou contre le Brexit?
Non, ah non, pas du tout. Oui. Alors en fait, oui. Ça c'est le plus gros contrat, parce que c'est affecté à nous. Oui. Personnellement, aussi, il y a beaucoup d'Anglais en France dans la même situation.
Mm-hmm. D'ailleurs, ça c'est, je trouve, très énervant. D'ailleurs, on peut avoir la colère parce qu'on n'a pas eu le droit de s'exprimer et en même temps, on nous informe, on est dans un flou et on n'est pas concerné et on ne peut pas s'exprimer. Mmh. C'est la sensation de fait muet. Je suis là, mais...
Bâillonné,
voilà.
Un peu comme si vous n'étiez plus trop britannique pour ça.
Tout à fait. Comme si on est plus britannique tout en étant, je me sens britannique.
Oui, c'est ça. Vous avez tous les deux fait une demande de naturalisation tout récemment, hein, je crois, à la fin de l'année dernière. Vous le faites à cause du Brexit. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre?
Pas difficile pour moi, parce que je suis... Ma vie, c'est ici. Je suis content.
Ici.
Oui, oui, je suis fier de bien, j'espère, penser. Mais il a un petit peu de nostalgie parce que j'ai mes amis, ma famille en Angleterre. Heureusement, je n'ai perdu pas ma nationalité anglaise. Je conserve ça aussi.
Les lois permettent de garder les liens.
Pour le moment, j'espère continuer.
Vous m'avez dit en préparant l'émission, ce qui est étrange, c'est que c'est comme si d'autres personnes avaient décidé pour moi.
Tout à fait, oui. En fait, quand je n'avais pas de vote, je n'avais pas de droit d'exprimer mon opinion, c'est décidé pour moi.
Mm-hmm. Jenny?
Ben pour moi, c'est un peu le même, mais pas complètement, parce que je n'aurais jamais pensé demander notre nationalité avant. Pour moi, je suis britannique, je suis née en Grande-Bretagne, mais je suis citoyenne du monde. Pourquoi dois-je changer de nationalité? Et quand j'ai eu le Brexit, évidemment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mais pendant un moment, j'étais dans le déni, je ne voulais pas le faire. Parce que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Mm. Ce n'est pas parce que je suis français, je sens français, je suis fière d'être français, ce n'est pas ça. C'est que c'est plutôt, à un moment donné, ça devient un choix rationnel, pragmatique, peut-être...
Un choix de raison. Quoi.
Oui, un choix de raison. Et pour moi, ça, j'avais une tension interne entre le choix de ressenti et la raison.
Il y a un peu plus de 5 ans, vous avez eu un petit garçon avec un compagnon français et vous vous êtes aperçu, par exemple, qu'un livret de famille, c'est compliqué quand on est britannique et pas française.
Oui, j'étais assez choquée même parce que moi, j'étais en congé parental et le livre de famille était mis. Donc, on avait rendez-vous pour le récupérer. Je vais à mon mari et on refuse de me le donner, même avec évidemment mon passeport, parce que je n'ai pas d'état civil. Je ne suis pas reconnue. Donc, mon mari devait prendre une demi-journée pour aller le chercher et je sens comme si je n'existe pas. Mmh. Sur la page de la livre de famille, il y a le père et il n'y a rien dans la place du maire en première page.
Ça veut dire que c'est un petit peu une inquiétude sur l'avenir qui vous pousse aussi à faire cette démarche
aujourd'hui.
C'est tout
à fait, c'est par rapport à mon fils, c'est la sensation d'être là et pouvoir être responsable parce que si je ne suis pas française, à un moment donné, peut-être ça pose le problème. Mm-hmm. C'est ça.
Comment le vivent vos familles qui sont en Grande-Bretagne?
En fait, j'ai une soeur qui est très frustrée. Parce qu'elle ne sait pas non plus comment ça change les choses. Mais toute ma famille, c'était contre le Brexit. Elle ne comprend pas non plus.
Et de vous voir de faire la démarche de devenir français aujourd'hui.
Oui, c'est un peu bizarre pour eux. Elle exprime fortement sur le sujet qu'elle a dit. Mais évidemment, ta vie, c'est en France. Vous avez vécu 20 ans ici, travaillé dans une relation amoureuse, avec Paxi aussi. Pour elle, c'est un peu naturel, je fais ça parce que ma vie, c'est là.
Ouais.
Mais pour elle, comme moi, c'est la fierté d'être britannique.
Ouais. Jenny. Pour moi, je dois dire, j'ai pas trop discuté avec eux. Ma maman, elle est un peu comme moi, elle comprend, c'est un choix raisonné. Mm. Mon papa a voté contre le Brexit, il voulait sortir. On n'a jamais vraiment discuté pour moi parce que...
Ah, il a voté pour le Brexit,
oui,
alors,
Il a voté pour le Brexit. Mm-hmm. Maman a voté contre, mm-hmm. Elle m'a dit, j'essaie d'égaliser ton père, neutraliser. Mais du coup, je ne discute pas avec lui parce que quelque part, même ça, ça peut être des sujets de désaccord. Et donc, c'est un peu...
Le vote de votre papa fait que vous demandez la nationalité française aujourd'hui.
Bah, quelque part, oui.
Et c'est difficile en famille,
pour
ça,
moi,
du coup.
Bah, on ne discute pas parce que je n'ai pas envie de créer une situation de tension. Mais quand le Brexit est passé, mon père l'avait un peu choqué. Genre, oh, mais j'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Et je ne savais pas quoi lui répondre. Et donc, la question de la nationalité, je ne l'ai même pas demandé qu'est-ce qu'il en pense. Mmh. Et parce que je préfère éviter.
Ça divise quand même encore pas mal beaucoup de familles britanniques, hein, cette question du Brexit.
Bah, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup d'amis ou même ma sœur qui ont des beaux-parents, les personnes âgées ou les parents qui ont voté pour sortir de l'Europe, autant que les enfants un peu de mon âge, donc 40-50 ans, sont souvent veulent rester. Ouais. Et donc beaucoup d'amis ou personnes ont des problèmes avec les parents parce qu'ils sont en désaccord. Mmh. Et ça, c'est difficile aussi.
Bon, en tout cas, vous serez peut-être bientôt français. Bientôt compatriote, et en tout cas vous garderez aussi votre nationalité britannique, et c'est tant mieux parce que de toute façon avec ces très jolis accents, vous ne pouvez pas renier vos origines. Merci Paul, oui. Et merci Jennifer.
Merci Sophie.
Merci. Merci.
Jennifer Wright et Paul Stamper, deux designers en France depuis plus de 20 ans. Leurs demandes de naturalisation suivent leur cours. Depuis notre interview, ils ont été auditionnés et attendent maintenant le verdict des autorités françaises. Les demandes de naturalisation sont en hausse, hein, très nette dans plusieurs pays d'Europe. Dans un tout petit instant, on termine comme d'habitude par un vagabondage de Joseph Chovanec quelque part en Autistan.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h51 sur Europe 1 et c'est le moment de retrouver Joseph Chovanec dans ses derniers carnets de l'année qui nous font revisiter 2019, y compris du côté de l'Autistan, Sophie Larmoyer.
L'autistan, c'est cette manière si singulière de regarder le monde qu'a Joseph. Paré de toutes ses qualités de philosophe, autiste Asperger et voyageur passionné, bien sûr. En voyant les rues de Paris ces dernières semaines marquées par la grève, en voyant les pistes cyclables envahies de vélos, parfois mal assurées, j'ai repensé à cette chronique que nous avait proposée Joseph en septembre. Il était alors en Nouvelle-Calédonie, où il se baladait à vélo, justement.
Du moins, j'essaye. Hein. Ce n'est pas si simple que ça, l'heure de vous faire un aveu. Je n'ai appris à faire du vélo qu'il y a 2 ans et demi. Mmh. Quand j'étais petit, certes, mes parents avaient essayé de m'apprendre, mais cela s'était fini en, si j'ose dire, bain de sang.
Wow. Hein.
Ce n'est que durant mon séjour dans l'état de Nîmes, et toujours lui, mon pays préféré, cette superpuissance au cœur du Pacifique de 1200 habitants, hein, que j'ai franchi le pas. Hein. Le premier jour, avec mon vélo, j'ai dû faire quelques mètres à peine. Mais le surlendemain, je me suis élancé sur les routes de l'île.
Ouais, c'est comme les langues, hein. Vous apprenez tout très vite, vous.
En tout cas, j'y pense beaucoup, hein, au vélo. Quand j'arrive dans un endroit nouveau, je cherche à connaître le prix du kilowattheure d'électricité à cause du minage des crypto-monnaies, mon hobby secret, hein, et la façon de louer un vélo à l'endroit en question. Hier, mes amis calédoniens qui m'accueillent ici ont commencé à pousser de grands soupirs en m'entendant à nouveau parler du vélo. C'est devenu un centre d'intérêt autistique.
Bah, du coup, vous en avez loué un ?
Pas si facile. Hein. Cette procédure de location de vélo en dit déjà à elle seule beaucoup sur le pays où vous êtes. Mmh. Passons sur les pays bureaucratiques de plus en plus nombreux où on voudra pièces d'identité, carte bancaire, que sais-je, rédhibitoire. À Svalbard, tout à fait près du pôle Nord, on loue avec le vélo une carabine en cas d'attaque d'ours polaire.
Ah oui.
Sans surprise, ma procédure préférée de location, c'est celle de l'état de Niue. Mmh. Les vélos sont posés devant la maison polynésienne. Il suffit de prendre celui que l'on veut. Il y a toujours moyen de s'arranger ultérieurement pour le paiement. Mmh. Un pot de miel, par exemple.
Vous en avez déjà fait dans le pays du vélo par excellence, la Hollande ?
Ah oui, Sophie, j'y ai même vécu une situation touchante cet été. Alors, la Hollande est submergée de tourisme et ils restent tous à Amsterdam. Il faut aller dans les localités rurales, par exemple à Den Helder où j'étais, dans le petit gîte. L'accueil a été formidable. Alors, bien sûr, je me suis mise à parler de vélo à l'une des dames. Et surprise, elle m'a prêté gratuitement, sans me demander quoi que ce soit, un vélo. Ce fut une fabuleuse journée. J'en suis rentré crevé.
Les pneus crevés ou très fatigués?
Très fatigué, hein, parce qu'aux Pays-Bas, royaume du vélo par excellence, la route véritable n'est pas celle des voitures, mais des vélos. Ouais. Dans les gares, le parking le plus grand, le plus rempli, n'est pas celui pour les voitures, mais pour vélos, avec des dispositifs technologiques étonnants pour ranger le plus de vélos possible. À nombre d'endroits, il y a une signalisation routière spéciale vélo. Un point qui m'a interpellé, l'attitude des chiens. Dans la plupart des pays du monde, les chiens sont fascinés par les vélos et leur cours après. Normal, ils aiment regarder les roues tourner comme nous autres les autistes. Mais aux Pays-Bas, non, les chiens sont parfaitement indifférents. Ouais. Il faut dire qu'ils s'épuiseraient vite.
C'est juste parfait pour qu'ils circuler à vélo.
Ah non, Sophie, ce n'est pas le paradis. Pour une raison simple, c'est que les autochtones y circulent à une vitesse hallucinante. Ouais. Ça donne un sentiment de danger, mais aussi, qu'on se l'avoue, une sorte d'humiliation permanente pour les mauvais cyclistes comme moi. Quand on transpire péniblement pour avancer, on se fait constamment doubler à la vitesse de l'éclair. Ouais. J'ai enfin visité cet été l'île de Texel. C'est une île néerlandaise en mer du Nord. Ouais. Et même scénario, un peloton de cyclistes qui me laisse dans la poussière dès que le feu pour cyclistes passe au vert. Sauf que cette fois, j'avais un lot de consolation. Deux cyclistes semblaient ne pas pouvoir suivre les autres et se traînaient péniblement derrière. Ouf, pour une fois, je me suis dit, je ne suis pas le dernier. Sauf qu'en passant à hauteur des deux cyclistes, j'ai remarqué qu'ils se parlaient en français.
Comme c'est vilain de se moquer comme ça, Joseph, vous n'avez pas honte?
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins.
C'est le clap de fin de l'émission pour aujourd'hui, et puis fin du tome 2019 des carnets. On espère vraiment que vous prenez autant de plaisir à écouter ces grands reportages que nous en prenons à les imaginer, les tourner, les monter. On essaye de vous raconter ce monde qui bouge, qui change, et la manière dont on vit ailleurs. Un grand merci à Marc Fréjean qui assure tellement à la réalisation et à Florence Gimalac qui prépare les carnets avec enthousiasme. On vous souhaite de très bien finir l'année, de bien commencer la nouvelle. Rendez-vous dimanche prochain en 2020 pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.